Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre le lundi à 14h, et bien évidemment sur 93.fm, c'est Rayon Libre, 93.fm, c'est Cause Commune. Si vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.1fm, si vous nous écoutez à la radio, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web, cause-commune.fm, et vous pouvez aussi nous retrouver sur votre plateforme préférée de podcast, comme Apple Podcast, Spotify et consorts. N'hésitez pas évidemment à partager nos productions, nos émissions, à les liker aussi, c'est important de liker. Merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26. Merci à Olivier Gréco pour faire vivre cette station Cause Commune. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de votre fidélité. Et aujourd'hui, je me demande à quoi ressemble votre bibliothèque. Est-ce que vous lisez des livres ou des magazines sur le thème du vélo? Et si vous en lisez, quels sont les livres que vous choisissez? Les guides de voyage, les essais qui abordent le sujet sous un angle sociétal, urbanistique, architectural, les beaux livres sur les vélos, des beaux livres avec les champions. Peut-être lisez-vous des guides pour apprendre à entretenir votre vélo, des biographies, l'histoire de la bicyclette. Avant de m'intéresser au vélo, je ne soupçonnais pas une telle production littéraire autour de ce thème. D'ailleurs, je ne me rends pas compte, trouvons-nous plus de livres sur ce sujet en 2023, alors que la pratique et les usages du vélo croissent de manière, on va dire, exponentielle, plutôt qu'en 2018 ou 2019. Et qui sont les lecteurs de ces livres? Des amateurs, des passionnés, des pratiquants? En tout cas, au rayon BD, il n'y avait pas beaucoup et il n'y a toujours pas beaucoup de bandes dessinées qui font la part belle au vélo. Maui a bien sorti une BD dans laquelle Lucky Luke troque joli jumper contre un vélo, ou encore Les bijoux de la Kardashian par François Vignol, Julien Dumont, Grégory Mardon aux éditions Glénat. Un braquage dans lequel les brigands arrivent et repartent à vélo. Le vélo est ici presque anecdotique, ce n'est qu'un moyen. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez ou pas les romans graphiques, restez avec nous. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Del Real qui publie Plou errant, le voyage à vélo de Plouer à Téhéran. Si vous aimez le voyage à vélo ou pas, et ben restez quand même avec nous. Si vous vous demandez si vous pourrez partir loin ou pas à vélo, restez avec nous. Isabelle, j'en suis certain, va vous donner envie de partir, de poser deux sacoches sur votre deux roues et filer, et peut-être même qu'elle va vous donner envie de vous poser confortablement sous une grosse couette avec deux oreillers calés derrière la tête. Oui, deux, parce que quand on lit un livre comme ça qui fait 242 pages avec un seul oreiller derrière la tête, eh ben on va vite avoir mal à la nuque. Bonjour et bienvenue dans Rayon Libre, Isabelle Del Real. Merci de vous rendre disponible aujourd'hui. Alors si vous voulez bien, Isabelle, on va en première partie d'émission parler de votre envie de partir à vélo, puis en deuxième partie de votre envie d'en faire un roman graphique. Qu'est-ce qui vous pousse à partir là comme ça, Isabelle?
Bonjour, une envie de partir loin, de partir de chez moi et de voir jusqu'où je pouvais aller. Dans un premier temps, je voulais partir à pied et dans un second temps, je me suis rendu compte que je n'avancerais pas assez vite. Alors c'est un peu contradictoire quand on veut voyager lentement,
ouais.
Mais je me suis rendu compte que la vitesse la plus adaptée pour le trajet que je voulais faire, c'était certainement celle du vélo, et un vélo qui me permettait d'aller un peu partout, soit dans les chemins creux, soit sur les routes asphaltées.
Donc vous vouliez juste partir, pas rien de plus.
Eh ben, je pense que j'étais aussi dans un moment donné où déjà rien que vouloir partir et partir loin, ça avait été un peu reconditionné puisque c'était pendant le Covid,
ouais.
Et que de nombreuses frontières étaient fermées, et on pouvait pas du tout prévoir lesquelles allaient réouvrir et quand. Donc l'idée c'était de partir de chez soi et de voir jusqu'où je pouvais aller. Et j'étais tout à fait préparée à être confinée 3 mois quelque part, mais je me disais j'avancerai le plus loin possible sur cette route, on verra.
Ce que vous m'expliquiez aussi, c'est que le vélo donc est arrivé assez spontanément ou assez facilement comme une solution pour partir un peu loin et à un rythme qui vous convenait. Mais d'un autre côté, vous n'êtes pas une cycliste, vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous aviez même pas de vélo aussi?
Pas du tout. Alors j'avais sûrement un vieux vélo rouillé, mais je sais même pas où il est. non, j'étais pas du tout une cycliste, et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me considérer comme une cycliste, parce que c'est tellement un moyen de transport que j'ai choisi pour des raisons pragmatiques.
Ouais.
Et que j'adore. Aujourd'hui, j'adore et j'essaye de réorganiser mon quotidien autour des déplacements à vélo. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument génial. Mais à l'origine, j'avais presque de la peine pour les gens qui voyageaient à vélo, tellement ça me semblait
difficile,
lourd, ouais. Pas sexy. Quoi.
Et quand vous dites vous réorganisez votre vie au quotidien pour vous déplacer à vélo, c'est quelque chose qui vous est venu après votre voyage à vélo ?
Non, c'est venu un tout petit peu avant, en fait. C'est venu 6 mois avant, quand j'étais encore en études à Paris. Ouais. Et que je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux, je m'en sentais beaucoup mieux dans ma vie, dans mes baskets, quand je faisais mes déplacements à vélo, à Vélib. Même s'ils avaient toujours un problème, une roue crevée ou un truc comme ça.
Ouais.
Mais je me sentais beaucoup, beaucoup mieux dans la ville. Et donc après le confinement, j'ai essayé de... Pareil, j'habite près de la mer, mais pas en face. Donc d'y aller à vélo plutôt qu'en voiture, même si c'est pour des très courts déplacements. Et puis quand je suis partie pour le grand voyage à vélo et que je suis revenue, j'avais enfin un bon vélo, donc ça me permettait de faire la plupart de mes déplacements à vélo sur un vélo qui fonctionne, donc ça c'est chouette.
Et vous êtes d'accord, ça change tout d'être sur un bon vélo qui roule bien, avec un bon rendement, qui est confortable, qui est adapté, etc.
Alors je pense que mes standards sont très bas, parce que
oui.
Je partais vraiment très loin en vélo, mais et que je pense que c'est justement accessible un bon vélo, mais oui, un vélo adapté, qui soit accessible en prix, je pense que c'est vraiment top.
Et d'ailleurs, votre vélo, vous l'avez fabriqué vous-même avec des potes, c'est ça? Le vélo qui vous a servi à rallier Téhéran?
Exactement, on l'a fabriqué avec des potes. Et en fait, comme j'avais tellement peu de standards, à aucun moment je me suis dit « Ah, les pneus sont trop larges » ou « Ah, ceci, cela ». C'est vrai que maintenant, je comprends mieux dans quel usage il s'intègre, ce vélo. C'est un vélo qui est hyper polyvalent, mais il n'est pas fait pour rouler longtemps sur du plat et même en montagne c'est un peu difficile, mais en fait comme j'avais pas de standard j'étais tout le temps contente et ça reste
mais c'est formidable parce que c'est un peu ce que vous, au fait vous avez découvert, vous n'êtes pas posé plus de questions que ça et j'ai presque l'impression, j'avais envie de vous poser la question Isabelle Delrella, est-ce que c'est facile de partir à vélo peu importe le vélo? Visiblement oui.
Oui, je pense que oui. Je pense que j'ai dit à quelque chose que beaucoup de gens disent, mais c'est vraiment dans la tête et plus encore, pas que dans la tête, c'est si on a envie, si on est content de faire ce qu'on est en train de faire, c'est fabuleux. Moi, si quelqu'un un jour me dit, bon, à part, il va y avoir de la pluie, dépêche-toi, tu dois arriver quelque part, mais me dit d'aller vite sur un vélo, je serais très malheureuse.
Ouais.
Ça gâcherait tout mon plaisir d'être à vélo. Et pourtant, des fois, je peux aller vite et faire beaucoup de kilomètres ou monter énormément de dénivelé, mais c'est parce que j'en ai envie. Et c'est tout ce qui compte. Et pour le coup, j'avais un vélo qui était de qualité parce qu'il était solide. Donc, c'est quand même un vélo vraiment, vraiment chouette. Mais je sais qu'il peut y avoir des transmissions bien plus performantes.
Ouais.
Honnêtement, ça m'est presque égal, ou alors je comprends pas bien le sujet, je pense.
Oui, non, ouais, c'est aussi ce que vous, enfin, c'est aussi chacun peut s'approprier le vélo comme il le souhaite. Et au fait aussi, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est peu importe la vitesse, ce qui est important et ce qui est assez facile, c'est juste de continuer à avancer.
Exactement. Tant qu'on est content de rouler, il faut y aller. Et je pense que quand on part au long cours, donc c'est-à-dire vraiment plus d'un mois ou deux, ça crée aussi une envie d'avancer.
Enfin, ouais.
Tous les jours, j'ai envie de me remettre en selle et de pédaler. Quoi.
Tous les jours. Donc aujourd'hui, le vélo, c'est votre quotidien? Presque.
Ouais, maintenant, j'en fais au quotidien, même si je roule beaucoup moins que quand je voulais pour aller à Téhéran. Mais j'ai très envie de repartir à vélo. Cette fois-ci, j'aurai une nouvelle organisation. Je pense que je prendrai un sac à dos de rando avec moi pour faire des pauses de quelques jours en montagne.
Ouais.
Aller dans les endroits où on ne peut pas aller à vélo. Mais je trouve que comme moyen de déplacement, c'est vraiment génial.
Et alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, parce que là, vous me dites, donc vous êtes en train de vous préparer à partir sur un autre voyage, c'est ça?
Oui.
Est-ce que c'est facile d'arrêter de pédaler?
Alors, non, je pense pas, mais du coup, j'ai pas vraiment arrêté parce que j'ai continué de pédaler tous les jours après que je sois rentrée, même si c'était beaucoup moins.
Oui.
Mais c'est sûr que c'est un luxe incroyable de savoir que tous les jours, on avance entre 50 et 100 km dans une direction, qu'on va voir des nouveaux paysages et qu'il va y avoir des cols, des descentes, des nouvelles vues. C'est un peu aussi incroyable comme façon de remplir une journée, d'être sur un vélo dans des montagnes, dans des déserts, et de savoir que le matin on défait un camp, le soir on refait un camp. Donc ça, c'est un quotidien qui est hyper satisfaisant et agréable et apaisant. C'est plus ça qui manque après, et le vélo en fait partie, mais c'est pas le but de faire du vélo, c'est vraiment le moyen de déplacement.
Oui, c'est vraiment un moyen et non pas un objectif. Et alors ma question, mais vous y répondez un petit peu, la question suivante, c'est est-ce que c'est facile de revenir à une vie un peu plus, alors j'hésite, est-ce qu'on dit normal ou normé, on va dire normé, parce que en fait vous êtes parti en voyage juste après avoir obtenu votre diplôme, hein, c'est ça?
Ouais, c'est tout à fait, enfin c'était quelque chose, enfin j'étais... Comment dire? C'est ce que j'essaye de me dire, c'est une chance de revenir d'un long voyage et puis de pouvoir soit trouver un travail, soit bosser dans quelque chose qui me plaît. Donc je me suis à aucun moment dit « Ah, c'est dur ou... ». Mais c'est vrai que ça fait un petit décalage. Mais après, j'ai fait beaucoup de choix suite à ce voyage à vélo. Je ne suis pas retournée vivre en ville à long terme. J'ai choisi de vivre à un rythme plus lent en campagne. Je pouvais faire des sorties à vélo. Donc au final, le voyage a conditionné beaucoup des choix que j'ai fait en rentrant.
Vous saviez ce que vous partiez chercher ou pas?
Pas exactement, si ce n'est le sentiment d'être en route, d'être en train, ouais, de partir loin, d'être en train de...
En train à vélo.
Exactement. Ouais, c'est un abus de langage. Mais,
c'est mignon.
Ce que je cherchais.
Ouais. Ouais, pardon, vous disiez, excusez-moi, vous saviez pas vraiment ce que vous cherchiez?
Non, peut-être un peu le sentiment d'aller au bout de la route, de voir qu'est-ce qu'il y a au bout, mais ça c'était des idéaux un peu naïfs. Et au fur et à mesure que je me rendais compte que j'étais très bien sur la route, que j'avais un bon équilibre, que en fait c'était pas l'école, ni la hauteur d'école, ni la distance qui posait problème, que j'étais très bien, je me suis demandé si j'allais continuer longtemps en fait, parce que je suis dans un état d'esprit où j'ai du moins une personnalité où je sais pas exactement, mais où je peux aller comme ça loin si physiquement ça va et si je suis en sécurité sur la route, c'est un vrai plaisir. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me plaît? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de désirable? C'était ça aussi un peu ce qu'il faut se poser. Est-ce que ça me plairait de me poser aussi? C'est des questions qui ont commencé à apparaître en étant sur la route.
Et ça, vous commencez à trouver des réponses à ces questions?
J'ai trouvé une super... c'est pas forcément une réponse, sinon j'ai trouvé autre chose qui m'attirait au moins autant ou qui me rendait au moins autant curieuse que d'aller au bout de la route.
C'est le dessin.
Et c'était le dessin, pour le coup. Ouais. Je me suis dit, je pense que les deux sont vraiment très très liés. Et toute l'énergie que j'ai mis dans ce voyage à vélo, alors que je connaissais rien en voyage à vélo et je n'avais jamais vraiment grimpé de col ni rien, ça a été la même énergie que j'ai mis dans la réalisation d'un roman graphique, parce que je dessinais pas vraiment, j'avais jamais fait de page de BD. Et j'en ai dessiné jusqu'à présent 242, et les 242 sont dans le roman graphique.
Ouais.
Et c'était la même énergie. Et c'est aussi en prenant confiance en moi pendant ce voyage à vélo, en me disant, finalement, ça se fait bien, en fait. Ça me rend contente que je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire et que je suis capable de faire. Et c'est un peu naïf, dit comme ça.
Non, mais c'est, c'est aussi une question de confiance en soi et peut-être aussi un peu de fierté de se rendre compte qu'on peut accomplir ce genre de choses. Mais Isabelle, vous m'offrez une transition magnifique. En deuxième partie d'émission, on va justement parler de votre roman graphique, à quel moment l'idée est venue et à quel moment le désir d'écrire, de dessiner est venu et ce que vous avez voulu raconter. Pour l'heure, il est là, il est le mi-temps de Rayon Libre. Il doit être à peu près 14h14, parce que oui, cette émission est enregistrée. Donc, le moment de l'agenda et de la pause musicale, on s'intéressera avec Isabelle Del Real à son ouvrage, Poulet Errant, publié en auto-édition et qui, je crois, arrive chez vous, là, début de semaine prochaine. Donc, c'est parfait en termes de timing pour cette émission. Donc, pour l'heure, que lire cette semaine? Parce que l'agenda, comme on parle de BD aujourd'hui, ça sera que du lire. C'est une sélection de BD, classique ou pas, dans le vélo. Alors, plongez-vous dans les aventures de Jojo par André Geertz, du vélo et même du tandem pour aller à l'école avec son pote. Plongez-vous aussi dans les aventures de Picobog et Anna, écrit et dessiné par Alexis Dormal et Dominique Roch chez Dargo. Le vélo n'est jamais bien loin. Enfin, un album magnifique, L'Aigle sans orteil par L'Axe, pas plus publié chez Dupuis, c'était en 2005. Vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre, nous sommes lundi 28, je ne sais plus, parce qu'Isabelle a roulé jusqu'à Téhéran, parce que le titre de cette émission est Femme, vie, liberté et vélo, même si je sais que Isabelle n'a pas forcément envie de porter un message comme celui-ci, ou en tout cas, c'est pas l'objectif. Mais oui, parce que nous avons envie d'avoir une pensée pour les femmes iraniennes quand même. On va s'écouter Calm Down de Rema. Sur cette musique, 5 jeunes filles au mois de mars dansent sans voile dans la rue. Elles se font arrêter. On sait pas trop ce qui s'est passé après. Mais allez, on se retrouve après avec Isabelle Del Real.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, Yanga, oh Yanga. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Follow, who you gonna phone for? When you know I come for one,
say she's a big boss down 1-1. But she feeling insecure, cause her friends could they go my light chain go up. Could they go my light chain go up? Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. I love you, no day for me, yanga. Oh, yanga. No, tell me, no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. As I reach my house, I say, make a rest, my war. As me I wake up, now she did my mind on one. Day one, day two, one of you folk of us. Now so me I call now, say me we link up. As I start to tell her, I feel no matter this. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls, we pull my heart for pain. Baby, you feel my pain. Baby, calm down. Calm down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo.
Retour, la deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune, c'est du 93.1 FM avec Isabelle Del Real pour son roman graphique Plou Errant. Juste avant la pause musicale, Isabelle, vous nous expliquez que l'envie de dessiner, vraiment, pour la première fois, vous êtes venue en pédalant pendant votre odyssée entre Plouère et Téhéran, c'est le cas ?
Mon envie de... Ouais, oui, si, en grande partie. En grande partie, parce que avant je dessinais pas trop et que j'avais prévu juste de faire une année de césure de voyage et après de reprendre un mode de vie, disons, plus classique.
Ouais.
Et c'est en voyage que j'ai commencé à dessiner.
Et... oui, pas sur le vélo, juste après.
pas encore, ça viendra peut-être. Un tricycle. Mais c'est pendant le voyage que j'ai commencé à dessiner. Et que j'ai commencé à prendre confiance dans mon dessin aussi, peut-être parce que j'étais un peu loin de tout et que ça me permettait de retranscrire des émotions et peut-être de mieux raconter qu'à l'écrit ou par la photographie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est aussi juste le fait de prendre confiance en soi, mais je me suis dit, bon, ben, ce niveau de dessin-là, je pense qu'il transmet assez bien l'information et peut-être que ça suffit pour raconter des histoires.
Oui.
Et je me suis dit, bon, ben, je vais voir si j'arrive à raconter plus d'histoires avec le dessin.
Et alors, ce qui est marrant, c'est là, quand dans ce que vous dites, juste pour réagir, vous dites loin de tout, loin des, j'imagine aussi un peu loin des autres. En fait, vous,
oui.
En étant toute seule sur votre vélo, il y avait aucune peur du regard des autres sur le dessin que vous faisiez. Est-ce que le trait était beau? Est-ce que c'était mature, pas mature, etc. Vous faisiez comme vous aviez envie.
Exactement. Je pense que ça vient en grande partie de ça. Et puis après, au fur et à mesure de la route, je me suis fait des amis. J'ai eu de la chance de rencontrer d'autres cyclistes,
ouais.
Et d'autres cyclistes qui dessinaient.
Ouais.
Et c'est devenu un peu une habitude et ça nous a pas mal motivés. On s'est mis à chercher des endroits à dessiner, on s'est mis à regarder les choses différemment. Je pense que ça vaut pour les autres personnes qui dessinaient en voyage avec
nous. Donc c'est quand même aussi des rencontres d'autres cyclistes qui dessinent, qui vous accompagnent pour vous dire « Allez, ben oui, en fait, je suis légitime, je peux le faire aussi, et peu importe ».
Et ben en fait ça s'est pas exactement déroulé comme ça. Je pense que j'ai décidé assez tôt que je voulais faire une bande dessinée.
Ouais.
Mais c'est en parlant avec eux, en leur racontant que ça devenait de plus en plus réel.
Ouais.
Et même dès le moment où on s'est rencontrés, j'ai dit moi je vais faire une BD, donc là maintenant tu me prends en photo pendant que je suis en train de couper des oignons sur une bâche en plein milieu du désert, parce que c'est pas très intéressant comme photo, mais moi je m'en servirai après pour potentiellement scénariser des trucs,
ouais.
Ou quoi. Et c'était des photos qui étaient un peu qui n'avaient pas vraiment de sens, si ce n'est garder des souvenirs pour savoir exactement comment enfin, pour voir exactement ce que je voudrais raconter graphiquement après.
Ouais. Et alors justement, vous aviez envie de raconter quoi? Parce que ce livre, moi, je ne l'ai pas vu, j'ai lu quelques planches, mais j'ai pas l'impression qu'on vous que ce soit j'ai l'impression que c'est beaucoup de moments justement en dehors du vélo sur ce que vous voyez, des réflexions que vous avez, c'est ça?
Ouais. Alors quoi raconter d'un long voyage, c'est la question qui m'a vraiment après pendant ce voyage-là, ouais. Parce que je me disais il y a plein de moments qui sont géniaux, mais c'est génial pour moi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en raconte? Et je trouve qu'il y a beaucoup d'écueils à éviter quand on décide de raconter un voyage.
Ouais.
J'avais très très peur de ça.
Ouais.
Et,
cinquième jour, qu'est-ce que j'ai mal au mollet? Super, merci.
Ouais, alors ça, peut-être de temps en temps, ironiquement ou pour rire, mais c'est vrai que du coup, je dis jamais le nombre de kilomètres qu'on a fait, ni ouais. particulièrement les étapes. Et ce que je voulais redonner au lecteur, c'est ce sentiment de flotter sur une route, d'être en train d'avancer, d'être en mouvement, d'aller d'un endroit à un autre. Évidemment, d'être à vélo, c'est important, c'est essentiel même. Le vélo est souvent représenté, mais c'est pas le sujet principal.
Mmh.
Et exactement comme pour le voyage où ça a été le moyen de déplacement. Le vélo sert à faire de fil conducteur dans cette histoire, mais ce que je voulais raconter, c'était pourquoi on a envie de partir loin après ses études, parce que c'est quand même un mouvement qui est adopté par plein de jeunes. Qu'est-ce que partir loin, les premiers moments de solitude, les premières nuits seules dans la tente.
Vous avez eu peur? Vos premières nuits sous la tente, toute seule.
Mais ça, c'est quelque chose qui partira jamais, d'avoir peur la nuit quand il fait noir, même dans des endroits que je connais très bien.
Et qu'on entend les chouettes ululer.
Et bien sûr, et puis les bruits de la forêt, ouais. les ambiances, c'est les choses que je voulais rendre. Mais typiquement hier soir, je marchais de nuit seule dans mon village où il y a de la forêt. Bah le noir, on voit pas ce qu'il y a. L'esprit continue de se faire des films.
Ouais.
Ça partira jamais. Puis après, il y a les rencontres, il y a arriver dans des pays où vraiment on n'a rien en commun avec la culture, où tout change, les paysages changent, l'architecture change. C'est aussi ces choses-là que je voulais raconter. Puis après, il y a encore une autre couche qui est le voyage un peu intérieur.
Mmh.
Pourquoi vouloir avancer sur les routes de la soie? Qu'est-ce qu'on trouve au bout de la route? Est-ce que ça apporte vraiment des réponses à nos questions d'avancer pendant un an tout droit vers l'Est? Donc c'est ces questions-là que...
Vous avez eu des doutes un peu de temps en temps ou pas sur votre vélo, sur votre envie d'avancer, sur votre envie d'aller jusqu'à Téhéran? Non.
Pas du tout.
Et quand vous avez fait votre roman graphique, vous avez eu des doutes? Est-ce que vous allez y arriver?
Non plus, c'est exactement la même énergie. C'est je le fais, dans un premier temps, je le fais pour moi, pour le plaisir. Après, j'ai de la chance d'avoir trouvé un modèle économique qui me permettait de le faire sans me poser trop de questions.
Est-ce que vous avez fait un appel à...
Ouais. Alors, avant ça, j'ai travaillé pendant 2 mois pour mettre beaucoup d'argent de côté.
Ouais.
Et je vis de manière, enfin, je vis assez chichement pendant que je faisais cette BD et j'étais en service civique d'initiative.
D'accord.
J'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que beaucoup de personnes auraient scié si on leur dit qu'on est parti pendant un an à vélo avec 2 t-shirts, 2 pantalons et pas beaucoup d'affaires et qu'on rentre pour s'installer dans un grenier et faire une bande dessinée. C'est vraiment ça, c'est un parcours qui n'a pas l'air très sérieux. En fait, quand je me suis installée pour faire la BD, je l'ai faite en service civique, donc ça donnait un cadre.
Oui.
Et puis, même pour moi, c'était chouette, mais ça a demandé un travail monstrueux. C'était 1000 fois plus d'efforts et de persévérance de faire cette bande dessinée que d'aller à Téhéran, parce que aller à Téhéran en vélo, c'est un pur plaisir. Et puis, j'étais dans les montagnes, je me faisais des amis, on campait, on avait des jours de pause. J'étais très libre, alors que là, je m'étais mis des objectifs qui étaient quand même assez soutenus, donc c'est-à-dire sortir une BD toute seule. J'avais décidé de ne pas chercher d'éditeur. J'ai toujours...
Pourquoi vous avez... Enfin, très vite, parce que le temps file. Pourquoi vous avez décidé de le faire seul, sans éditeur? Parce que ça aurait été
parce
peut-être
que
plus simple.
Je voulais... Ce qui comptait le plus pour moi, c'était de dessiner les planches de cette bande dessinée. C'était de raconter cette histoire. Et c'était pas de trouver un éditeur.
Ouais.
Et je pense que du coup, l'histoire, elle a sûrement certaines faiblesses. Et elle a de la naïveté. Mais au moins, elle est très sincère et très brute. Et au final, c'est maintenant ce qui fait son charme. Du coup, les premiers critiques... revenu et aime bien ce côté-là aussi.
Ce côté justement après, un peu naïf et un peu imparfait.
Ouais, peut-être. Après, je me cache aussi un peu derrière ces étiquettes-là pour faire exactement ce que je veux et raconter exactement ce que je veux.
Isabelle, le temps file. Il faudra quand même que vous nous disiez où on peut trouver cette émission. Pas du tout.
Absolument.
L'émission, c'est 93.fm. Cette BD. On va juste faire une petite pause parce que c'est le moment d'écouter Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire.
Okay.
Et après, on se retrouve et vous nous dites où on peut l'acheter, comment on peut l'acheter, combien elle coûte, etc. Et en tout cas, pour l'instant, Abel, c'est à toi.
Bonjour.
Dans beaucoup de pays, dont le nôtre, on utilise pour manger quatre objets. Un couteau, une fourchette, une grande et une petite cuillère. Ce choix s'accompagne d'une procédure précise. Les cuillères sont réservées l'une à un éventuel potage en début de repas, l'autre au dessert à la fin, et vous ne disposez pendant l'essentiel du repas que d'une fourchette et d'un couteau, particulièrement commodes pour la consommation de viande, mais pas forcément pour d'autres aliments. Ce choix des ustensiles est collectif, il est difficile d'y déroger individuellement. Lorsque je mange dans un endroit public, restaurant, cantine, mais aussi chez des amis, ces choix s'imposent à moi, et je les respecte évidemment. Il en est différemment lorsque je mange seul chez moi. J'utilise les mêmes quatre objets, mais sensiblement plus les cuillères, que je trouve plus pratiques pour manger par exemple des petits pois, des coquillettes, des haricots blancs, du riz, de la semoule. Non, je n'ai pas transformé ma chronique dans Rayon Libre en chronique gastronomique ou sociologique. Peut-être aurez-vous deviné que cette divagation hors de mon domaine habituel de compétences est une introduction à un parallèle avec les déplacements. Car là aussi, nous utilisons divers objets, des véhicules, pour lesquels nous opérons des choix qui sont aussi d'abord très largement ceux de la société et ne sont que partiellement individuels. Le poids social y est important. Lorsque j'ai eu 18 ans, alors que j'habitais Paris, ville particulièrement bien dotée en transport en commun, et que je me déplaçais aussi beaucoup à vélo, j'ai passé le permis de conduire et j'ai fait l'acquisition, quelques années plus tard, d'une automobile. C'était une Dauphine Renault. Ça me semblait naturel. La possession d'une automobile était alors, et encore majoritairement, une évidence sociale. On ne demandait pas « As-tu une voiture ?» mais « Quelle est ta voiture ?» C'est en train de changer, mais lentement, pas partout et pas dans tous les milieux. Il faut dire que l'automobile a façonné notre société, comme par exemple avec les centres commerciaux en périphérie d'agglomération, qui en retour ont façonné un mode de vie et des habitudes sociales qui concernent encore la majorité de la population. Des choix alternatifs, comme celui du vélo, qui a été pour moi, comme pour d'autres, d'abord un choix individuel, sont en train de s'étendre et de créer un système vélo parallèle au système voiture qui concerne de plus en plus de personnes et d'activités. C'est une bonne nouvelle, mais le chemin est long, bien plus long que beaucoup ne le pensent, pour que le rapport entre les systèmes soit rééquilibré. On moque parfois les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller chercher le pain à 200 mètres. C'est en fait simplement que leur voiture est leur seul élément de déplacement. Leur dire que ce trajet aurait pu être fait à pied, c'est comme dire à une personne qui utilise la fourchette et le couteau qui sont à leur disposition qu'il est possible d'utiliser d'autres types de couverts ou de manger avec les doigts. À lundi prochain, en juin.
Merci beaucoup Abel, nous sommes toujours sur Rayon Libre, c'est la dernière minute de Rayon Libre avec Isabelle Del Real qui vient nous présenter son projet, son roman graphique Plou Errant, et c'est le moment de nous dire où est-ce qu'on peut l'acheter ce livre, combien il nous coûte, quel poids il pèse, quel papier vous faites, enfin bref, dites-nous tout.
Oui, alors c'est un livre qui a été financé via un financement participatif. Ouais. Donc, en premier temps, l'impression, c'est que pour les personnes qui l'avaient acheté, mais j'ai étendu ça, donc il est disponible sur une boutique en ligne, qui sortira pas en librairie, sauf quelques librairies en Bretagne. C'est un livre, un gros roman graphique, donc c'est 280 pages, il y a 242 pages de BD et des aquarelles en couleur à la fin.
Et on le commande où ? On le commande où ?
On peut le commander en ligne sur mon site, c'est boutique.plouerrant.com.
Voilà, boutique.plouerrant.com. Sinon, vous tapez ouais. Isabelle Del Real, Plou Errant, P-L-O-U...
H-E-R-A-N.
Voilà, et on devrait trouver.
Ouais, absolument.
Et après, alors, dernière question. Oui, mais dernière... Non, Isabelle, vous parlez trop, faut qu'on rende l'antenne. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que c'est un livre que vous avez envie de porter, de présenter, de faire des conférences autour, etc., etc.?
Oui.
D'accord, et ben voilà, le message est lancé à toutes les associations vélo, qu'elles fassent du cyclo-cross, du cyclotourisme, qu'elles militent pour le vélo, qu'elles soient féministes, qu'elles militent pour les femmes en Iran. Peu importe, c'est un livre qui, ben voilà, appelez Isabelle, et sinon appelez-moi, et puis je le transmettrai à Isabelle. En tout cas, merci beaucoup Isabelle.